La lecture de ce matin est tirée du livre de Luc, au chapitre 18, verset 9, édition second 21. Chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais le pharisien, non. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée.
Merci, Jérémie. On va prier ensemble, si vous le permettez. Père éternel, merci pour ce temps qu'on peut prendre dans ta parole, Seigneur, pour être instruit par tes Écritures. Seigneur, alors qu'on va adresser un sujet concret, pratique pour l'Église, on veut te voir à travers ça, Seigneur. On veut apprendre à te ressembler. Notre désir, Seigneur, c'est que tu sois formé, que Christ soit formé en nous et que nous devenions matures dans notre foi, Seigneur, afin non seulement que nous pensions de manière saine, selon ta vérité, selon la vérité de ta parole, mais que notre style de vie, Seigneur, notre caractère, notre manière d'agir les uns avec les autres puis avec toute personne que tu places sur notre chemin, te ressemble davantage, Seigneur. Nous voulons être une église qui transpire tes vertus, tes qualités, ta beauté, Seigneur, dans nos rapports les uns avec les autres. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, ce matin, on continue notre série « Au-delà des obstacles » où on adresse des choses sur lesquelles, des domaines dans lesquels on veut grandir comme assemblée. Et puis, on cherche à grandir dans deux domaines en particulier. L'année dernière, cette année, l'accueil et la formation de disciples. La semaine dernière, Steve Cloutier est venu nous entretenir sur la formation de disciples. J'espère que vous avez apprécié cette vision-là rafraîchissante. Et ce matin, on parle de l'accueil. Puis, quand on parle de l'accueil, j'étais en train juste de réfléchir cette semaine à qu'est-ce que ça représente dans notre société. Parce qu'en réalité, c'est un mot qui est beau, c'est un mot qui est chaleureux, c'est un mot qui, généralement, souvent, va sonner comme quelque chose de très positif. On va parler, par exemple, du Canada comme une terre d'accueil, d'accord? Et donc, l'accueil, c'est quelque chose de très noble, de très, très beau. On va parler d'une personne qu'elle est accueillante, qu'elle est chaleureuse, que dans un premier contact, c'est pas quelqu'un qui est froid, mais c'est quelqu'un qui est accueillant. Puis d'un autre côté, quand j'essayais juste de penser dans notre société comment on sert du terme accueil, c'était un petit peu triste le constat que j'ai fait parce que d'autre part, ça sonne comme quelque chose des fois de très froid. On a juste à faire des associations. Si je vous parle d'être en famille d'accueil, oups, là le mot accueil vient de prendre un autre sens qui, pour certaines personnes, c'est une expérience absolument extraordinaire. Puis il y a des familles d'accueil qui c'est vraiment un acte de pure générosité que d'accueillir des enfants qui sont en difficulté puis qui vont être placés par l'État dans des familles d'accueil. Mais pour d'autres, c'est pas quelque chose de très très positif. Pensez à un autre terme aussi, un centre d'accueil. Un centre d'accueil, c'est quand on pense à nos parents, des fois on n'a pas le choix, nos parents vont être placés dans un centre d'accueil, puis les employés qui sont là peuvent être les meilleures personnes au monde, se dévouer de tout leur cœur. Il y a quelque chose de triste, de pathétique dans cette situation-là. Et donc, le centre d'accueil, ça devient très institutionnel. Intéressant, hein? Quand je prends le mot accueil, puis que je le place dans un contexte relationnel, ça peut être extrêmement inspirant puis beau. Puis quand je prends le mot accueil, puis je le place dans un contexte institutionnel, ça a l'air plus d'un système, ça a l'air plus d'un prétexte pour comme placer des gens avec qui on ne sait pas trop quoi faire. Dans l'Église, l'accueil ne peut pas être institutionnel. Ça doit être relationnel. Autrement, ça perd tout son charme, toute sa beauté. Le mot accueil, c'est intéressant. Il faut que j'aille le chercher parce que je l'oublie toujours. C'est du latin. Je suis pas fort sur mon latin. Le mot accueil vient d'un terme latin. Je vais le massacrer, d'accord? Ceux qui ont fait leur cours classique viendraient me corriger. Accoligere. Accoli, accueil, d'accord? Ça vient de ce terme-là. Puis pourquoi est-ce que je prends le temps de le souligner? C'est parce qu'en réalité, le sens de ce terme-là, que je ne répéterai pas en latin, c'est réunion. Réunion. On tire de ce terme latin-là les mots recueillir. Un autre terme aussi qu'on retire de ça, c'est collectif, accueil collectif, le col qui est là. Fait que ça, je trouvais ça intéressant parce que dans le fond, le terme latin qui est derrière nous parle de prendre puis d'inclure dans notre collectif. C'est ça que ça veut dire. C'est de là que ça vient. Prendre quelqu'un puis l'accueillir dans notre collectif, l'intégrer dans notre collectif, le mettre ensemble avec nous. J'ai une super belle image de l'Évangile ici. Parce que l'Évangile est définitivement accueillant. L'Évangile produit une culture d'accueil où on intègre les gens, on les invite à se joindre à nous vraiment. Non pas de manière institutionnelle et un peu superficielle, comme si les gens étaient des fiches, des numéros, mais de manière relationnelle, à travers des vrais contacts humains entre les gens. Et ce matin, ce qu'on va aller voir ensemble, c'est selon Jésus, il n'y a pas de place où tu peux poser la question à Jésus puis tu as une entrée dans la Bible, mais j'ai posé la question comme ça moi-même en réfléchissant sur les textes. Selon Jésus, c'est quoi les obstacles à l'accueil? Puis on va voir qu'il y a des obstacles à l'accueil qui sont les mêmes dans notre culture. Puis des fois, ça prend une saveur un petit peu différente, je crois, dans notre culture, mais Jésus touche des choses fondamentales. Quels sont les obstacles à l'accueil selon Jésus? Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que les obstacles à l'accueil se trouvent dans notre regard, premièrement. Dans le regard qu'on pose sur les autres, puis dans nos craintes, mais surtout dans le fait que nous oublions rapidement l'Évangile de la grâce. Les obstacles à l'accueil se trouvent dans notre regard et dans nos craintes, mais surtout dans le fait que nous oublions rapidement l'Évangile de la grâce. Peut-être qu'un des aspects les plus frappants des relations de Jésus avec les gens, si vous êtes familier avec les quatre évangiles, puis vous avez relu les évangiles, à un moment donné, il y a comme la personnalité de Jésus, elle ressort. Puis un des éléments les plus frappants, je crois, c'est le fait que Jésus défaisait les catégories que nous on fait. L'être humain, par nature, catégorise, classe les gens. Si vous étiez capable de rentrer dans mon cerveau, puis que je m'arrêtais, puis je traversais chaque personne dans la salle, une à une, vous verriez s'allumer dans mon cerveau, même si je voulais vous dire, non, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas de catégorie, il n'y en a pas dans ma tête des catégories. Vous verriez toutes sortes de catégories qui apparaîtraient. Parce qu'on fait des catégories, on classe les gens suivant des catégories. Puis une des choses qui est, selon moi, les plus frappantes avec Jésus, c'est que Jésus entre en relation avec des gens dans la société, puis il éclate ces catégories-là, il les conteste, il les remet en question, il rejette ces catégories-là, puis il prend la personne davantage, il va vers la personne directement. Jésus a des catégories, on va voir ensemble, mais il éclate celles que nous on met pour mettre un peu les gens dans des boîtes, pour les classer. Et c'est quelque chose de très frappant avec Jésus. Dans le passage que Jérémie nous a lu tout à l'heure, on a cet expert en catégorisation, le pharisien. Hein? C'était lui, il avait tout un schéma pour classer les gens autour de lui, qui dit dans Luc 18, 11 et 12, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il y avait des catégories qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain qui était un collecteur de taxes. un collecteur de taxes qui travaillait pour l'Empire romain. Dans le fond, il collectait des taxes pour l'envahisseur, d'accord? Donc, ce publicain, le collecteur de taxes, non, il dit, moi, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et cet homme-là, sans l'ombre d'un doute, s'assurait de se tenir essentiellement avec des gens de sa catégorie, d'accord? Il y avait des gens qui fitaient dans cette catégorie-là. Les justes, lui, se tenait avec les justes, d'accord? Ça, c'était sa catégorie à lui. On classe les gens avec différentes catégories. Je vous donne des exemples qui, je pense, on peut se reconnaître assez vite. On classe les gens par catégorie morale. On a des catégories morales pour les gens. Donc, il y a les corrects, les pas corrects. Fait que quand on croise quelqu'un, lui, c'est un correct, c'est un pas correct. Puis ça va assez vite, on n'a même pas besoin de réfléchir, on les classe. Lui, c'est un correct, lui, c'est un pas correct. Je pourrais vous nommer des professions, puis vous me diriez, ah, eux autres aussi, ils ont leur catégorie morale. Ceux-là, c'est des pas corrects. Tu sais, il y a des professions qui sont reconnues. J'ai juste à dire des professions, vous allez dire, ah, eux autres, c'est une gang de menteurs. OK, intéressant, catégorie. OK, toute la gang, une gang de menteurs. Ouch, OK, t'as vraiment toute une catégorie, hein? Donc, les corrects, les pas corrects. Il y a les gens avec qui on veut être associé puis les gens avec qui on veut pas être associé. On est encore dans les catégories morales. Oh, je veux pas être associé avec cette personne-là, ça pourrait comme, tu sais, correct, pas correct. Je sais pas comment m'approcher de ce genre de personne-là. Donc, il y a les gens, je sens que je sais comment les approcher, puis les autres, je sais pas comment m'approcher d'eux. J'ai des catégories. Puis souvent, on est confondu parce qu'on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas souhaitée. C'est une personne comme ça que je sais pas comment approcher, qui se retrouve assis à côté de moi dans un souper, tout ça. Puis à la fin de la journée, tu dis à ta femme, « Hey, finalement, il est sympathique, tu sais. » Je pensais pas, hey, il est simple d'accès. Ah, c'était cool, j'ai passé du bon temps avec, tu sais. OK, ta catégorie a été confondue. On a des catégories de gains aussi. Est-ce que j'ai quelque chose à gagner ou pas à gagner dans cette relation-là, d'affinité, d'avantage? Il est cool, pas cool? Je vais être avec cette personne-là, est cool ou est pas cool? Non, pas trop cool d'être avec. C'est pas comme, la soirée va être poche. Tu sais, j'ai pas le goût de passer la soirée avec. Pas cool, pas intéressant. Une catégorie de gain dans ce cas-là. C'est pas que la personne est bonne, pas bonne. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Elle m'attire pas. Encore une catégorie de gain. Pas attiré par ces gens-là. Je sais pas, c'est comme ça. Tu sais, c'est pas. On va se comprendre ou non? C'est une catégorie de gain. Je vais recevoir parce que la personne va me comprendre. C'est une catégorie de gain. Est-ce que je vais gagner à m'approcher de cette personne-là? Donc, catégorie morale, catégorie de gain ou d'affinité. Intéressé ou non, là, c'est plutôt comment on regarde l'autre personne. Est-ce que l'autre personne est intéressée à moi? Fait que je me dis que cette personne-là m'a classé dans une catégorie qui sera peut-être pas bonne. Est-ce que cette personne-là a besoin d'être accueillie? Je vais regarder juste l'attitude, je lis son nom verbal, puis je dis, oh boy, il est suffisant celui-là, il a même pas besoin que j'aille le voir, tu sais. Alors qu'en réalité, il est complètement pogné, puis il a juste besoin que quelqu'un ait dit, hey, salut, bienvenue, ce serait le fun de t'asseoir avec nous. Tu veux-tu manger chez nous cet après-midi? Je fais juste une super mauvaise lecture parce que la personne est un peu timide ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas besoin. Est-ce qu'il va apprécier ou non? Est-ce que la personne va apprécier que je cherche à connecter avec elle? Voyez-vous, on a des catégories. On classe les gens, ça prend une fraction de seconde. La majorité du temps, c'est inconscient. Ça prend beaucoup d'exercices conscients pour faire éclater ces catégories-là. Mais nous-mêmes, on a des catégories. Les gens à l'époque de Jésus avaient des catégories. On le fait à notre époque. Et à l'époque de Jésus, c'était pas simplement juste comme dans le monde, mais même très tôt dans l'Église. Alors, pensez à Romains, par exemple, dans l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul va nous parler, 9, 14, dans Romains, il va nous parler des catégories à l'intérieur de l'Église. Il y a les gens qui sont des faibles, il y a des gens qui sont des forts. Puis, si moi, je suis un fort, j'ai une conscience qui est plus fondée dans les Écritures. Je sais discerner ce qui est vraiment mal, ce qui est pas vraiment mal. Fait que je suis confortable avec ça, puis lui, il est pas confortable avec ça. Pas trop cool passer une soirée avec du monde faible, un peu constipé. Fait que je me tiens avec du monde plus relax, tu sais, qui s'assume, puis qui sont libres vraiment, tu sais. Ah, c'est l'Église, come on, vous êtes pas de même. Je suis tout seul à être comme ça? N'importe quoi, je pense que vous êtes pareil comme moi. Pour Jésus, il y a juste trois catégories. Jésus a des catégories. Pour Jésus, il y a trois catégories. Le pécheur humilié, je m'excuse, le pécheur inconscient, le pécheur hypocrite, puis le pécheur humilié. Trois catégories pour Jésus. Ça donne, dans le fond, qu'il n'y en a pas vraiment. Sa catégorie, c'est vous êtes tous pécheurs. Mais pour Jésus, il y a trois catégories. Le pécheur inconscient, le pécheur hypocrite, puis le pécheur humilié. Et donc, Jésus s'en va vers tous les êtres humains de manière égale. Il enseigne la parole de Dieu. Il manifeste l'amour de Dieu, il guérit des malades, il est là pour les gens. Et puis, en enseignant, il y a des pécheurs inconscients qui ne savent pas vraiment. Ils ont besoin d'être éclairés par la parole de Dieu pour découvrir des choses qui ne vont pas dans leur vie. Mais ce sont des pécheurs, ils sont loin de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils en sont inconscients qu'ils ne sont pas loin de Dieu. Après ça, il y a une autre catégorie, c'est la catégorie des pécheurs hypocrites. Le pharisien, c'est très, très fort dans les quatre évangiles. Disons que c'est la race que Jésus a plus de difficultés à aimer. Si Jésus a de la difficulté à aimer quelqu'un, d'accord? Il est parfait, fait qu'il ne doit pas avoir de difficultés. Mais disons que son non-verbal et son verbal, des fois, exprimaient certaines frustrations contre cette catégorie-là de pécheurs. C'est les pécheurs hypocrites. C'est ceux qui oublient le fait qu'eux-mêmes sont pécheurs, puis ils s'élèvent, tu sais, ils se promènent dans le monde, puis ils sont un petit peu au-dessus. Pour être franc, je pense qu'on est tous des fois des pécheurs hypocrites, là. Puis on a tous des moments où on a l'impression qu'on est plus juste que les autres, puis on s'élève au-dessus des autres, d'accord? Alors, c'est le publicain, évidemment. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et méprisant les autres. Luc 18, 9. Se persuadant qu'elles étaient justes et méprisant les autres. Le mépris vient toujours du fait qu'on estime être supérieur. Pensez à une personne que vous avez tendance à mépriser. Pensez à un type de personne que vous avez tendance à mépriser. Le mépris vient toujours du fait qu'on estime être supérieur. Pour nous, comme chrétiens, c'est souvent moralement. On estime être plus juste que ces personnes-là. Penserez à ça. Puis la troisième catégorie pour Jésus, c'est le pécheur humilié. Le publicain se tenant, Luc 18, 13, à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Ça, c'est le pécheur humilié. Humilié par son propre péché. Donc plus humble. Et encore là, je pense que tu ne peux pas devenir chrétien sans être passé par là. Autrement, tu ne peux pas vraiment avoir compris l'Évangile. Tu penses que tu as mérité ton ciel ou mérité ta réconciliation avec Dieu. Et donc, je pense que souvent, c'est là que l'Esprit nous reconduit à cette humilité-là qui fait que, Seigneur, à mes yeux, je suis le plus grand pécheur sur terre. Parce que c'est de mon péché dont je suis le plus conscient. Puis je vois mon péché comme celui qui affecte le plus les gens autour de moi. Donc, je suis un pécheur humilié. Voyez-vous, pour Jésus, il y avait une catégorie, pécheur. Il n'y en avait pas d'autre. Puis à travers ça, selon la réponse de chacun à la parole de Dieu, il va voir des gens qui ne sont pas conscients, qui ont besoin d'être exposés. Il va voir des gens qui devraient être conscients parce qu'ils prétendent connaître, mais ils sont trop orgueilleux, ils sont hypocrites tout simplement. Et à partir du moment où j'ai du mépris pour des gens autour de moi, il y a quelque chose qui relève de cette propre justice, de cette hypocrisie qui s'installe. Parce que Jésus, pour les pécheurs, ce qu'il éprouve premièrement, c'est de la compassion. Premièrement, c'est de la compassion. Jésus ne regarde pas les gens en catégorie, mais avec amour et avec compassion. Il les aime tous. Il envoie des nonos qui ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Il envoie des hypocrites qui ne veulent juste pas le voir. Puis il envoie qui sont brisés par leur péché. Mais il voit tous des pécheurs et il les aime tous. Et c'est ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Les gens peuvent être aussi loin que ce soit de Dieu. Jésus a toujours à l'esprit que leur place, c'est d'être auprès de Dieu. Les gens peuvent être aussi loin dans leur style de vie, dans leur manière de se comporter, dans leur apparence, dans leur comportement, dans leurs propos, aussi loin que possible de Dieu. Jésus les regarde toujours comme quelqu'un qui devrait être auprès de Dieu. Il y a toujours ce regard-là, ce désir-là. Il veut que tous soient sauvés. Et c'est ça qu'il ressent dans son rapport avec les gens. C'est ce qui fait que Jésus avait mauvaise réputation, avait la réputation de se tenir avec des gens de mauvaise vie. Parce que pour lui, il y a une catégorie, vous êtes tous pécheurs, toi, c'est juste que tu es hypocrite, tu ne veux pas le voir. eux, ils s'en cachent pas, puis eux, ils sont brisés par leurs péchés. Je vais aller leur parler à eux. Toi, t'as pas besoin de moi, t'es un propre juste. Mais c'est tous des pécheurs. Puis il les aime tous. Il veut tous qu'ils soient sauvés. Dans Luc 23, verset 33-38, je vais vous lire une longue section, d'accord? Mais je crois que c'est super important parce que ça reflète le cœur de Jésus. Et je crois que c'est au cœur de la solution à cet obstacle-là, du regard qu'on dépose sur les gens pour accueillir. Luc 23, 33. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je vais m'arrêter là, en fait. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis il est en train de se moquer. C'est bizarre comme déclaration de Jésus. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font, l'injustice qu'ils font. Pourtant, la foule qui est là a vu Jésus faire des miracles. Ils savent que ce gars-là ne mérite pas d'être là. Les chefs religieux savent que c'est avec le mensonge, avec la manipulation, c'est en soudoyant des gens pour porter de faux témoignages qu'ils ont réussi à magouiller ça. Les Romains savent que Jésus ne mérite pas d'être sur la croix parce que tu allais sur la croix quand tu avais manqué contre l'Empire d'une manière où tu avais essayé de porter atteinte à l'Empire ou à l'ordre dans le royaume, mais de manière vraiment vicieuse. Ils savent très bien que c'est un juste qui est là. Tout le monde est conscient de ça. Puis Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Ils ne savent pas qu'ils sont en train de cracher au visage de la seule personne qui peut les sauver d'eux-mêmes, puis les sauver de la colère de Dieu. La seule personne qui peut les conduire à Dieu. Ils sont en train de cracher au visage de celui qui les aime plus que tous, parce que c'est Dieu le Fils, qui est lui-même le Créateur du monde. C'est ça qu'ils ne savent pas. Et Jésus ne pouvait pas faire autrement, lorsqu'il regardait les gens, que ce soit des pécheurs inconscients, que ce soit des pécheurs hypocrites, ou que ce soit des pécheurs humiliés, il ne pouvait pas faire autrement que de les voir comme des gens confus, aveuglés par le péché. Cette parole-là que Jésus prononce sur la croix tranche avec toutes les fois où il s'en prend directement aux pharisiens, aux chefs religieux, puis les traite d'hypocrites, de sépulcre blanchi, de race de vipères. Parce que même si Jésus les confronte, ces gens-là, puis il est dur avec eux, parce qu'ils sont eux-mêmes une pierre d'achoppement, il entraîne des gens avec eux, lorsqu'il est sur la croix, son regard, c'est encore un regard de compassion. Seigneur, ils sont tellement cons, ces gens-là. Ils sont tellement confus. Ils sont tellement aveuglés par leur péché. Pardonne-leur, Père. Ça, c'est le regard de Jésus sur la foule qui est en train de le crucifier. Et notre plus grand obstacle, le premier obstacle auquel j'ai pensé en réfléchissant, en regardant les Écritures sur Jésus, le premier obstacle, je crois, que Jésus nous dirait à l'accueil, c'est le regard que nous déposons sur les gens autour de nous. On a le droit d'avoir des catégories. C'est des catégories qui nous permettent d'annoncer l'Évangile. C'est des catégories qui nous permettent d'aimer. Pécheurs inconscients, pécheurs hypocrites, pécheurs humiliés, ça va. Pécheurs, mon frère, pareil comme moi. Et le regard qu'on est censé avoir, c'est toujours un regard de compassion. Alors, comment est-ce qu'on peut grandir ensemble? Priez pour que Dieu vous aide à regarder les gens comme Jésus les regardait. Vous ne pourrez pas chasser toutes les catégories de votre tête, ce ne sera pas possible. Mais vous pouvez prier pour que Dieu change votre vision des hommes autour de vous. Priez pour que Dieu vous montre les gens que vous évitez. Il y a des gens que vous évitez. Soit par mépris, soit par crainte, soit par colère, mais il y a des gens que vous évitez parce qu'ils ne sont pas dans la bonne catégorie. Priez pour que Dieu vous les montre. On pourrait résumer le premier obstacle en disant qu'il s'agit du regard qu'on va poser sur les autres. Le deuxième obstacle, c'est différent, il parle plutôt de notre refus à nous de partager. Quand je pense à Jésus, puis je pense aux obstacles, refuser d'ouvrir mon foyer, vous allez voir. Vous allez dire, Jésus, il n'y avait pas de foyer, ça ne marche pas, ton affaire, Yannick. Non, vous allez voir, vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà remarqué l'importance des repas dans la vie de Jésus? Avez-vous déjà remarqué ça? Combien de fois Jésus mange avec des gens? Combien de fois il va chez des gens? Il va chez des chefs religieux, mais il va chez des gens de mauvaise vie aussi. Il va partager un repas avec eux. Il y avait un ministère itinérant, d'accord? Et vraiment, il se promenait, c'était ça. Et donc, il allait de lieu en lieu. Donc, il n'avait pas sa maison pour accueillir, mais il allait, il acceptait les invitations partout. Non seulement ça, mais un des moments les plus importants avec ses disciples, sinon le plus important, c'est le dernier repas. Où Jésus va partager en disant, ce pain-là, c'est mon corps, cette coupe-là, ça représente mon sang qui va être versé. Et donc, il est en train de partager encore. Pensez au moment où il s'arrête puis il dit, OK, les gars, il y a une foule ici, complètement malade, il faut nourrir cette foule-là. On va partager un repas ensemble. Là, les disciples freak complètement, ils disent, come on, il n'y a pas d'épicerie ici, on n'a pas les budgets, multiplie les pains et les poissons, partage le repas avec eux. Qu'est-ce qui nous est promis lorsqu'on va être réunis avec Christ? Comment la fête qui va se manifester, qu'on va vivre lorsqu'on va être réunis avec Christ, va s'exprimer de la plus belle des manières? Dans l'Apocalypse, au festin des noces de l'agneau. Ça va être un grand banquet qu'on va partager avec le Seigneur. Intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. L'idée de partager un repas pour Jésus, dans son ministère, c'était super important. Puis on le retrouve dans l'Église aussi. Un des plus grands obstacles à l'accueil, je crois, c'est le fait de ne pas ouvrir notre foyer. Puis on peut être tenté de croire que c'était vrai pour cette époque-là, mais je crois que c'est vrai pour notre époque encore aujourd'hui. On se crée une espèce de barrière dans notre tête, puis on se dit « accueillir quelqu'un, c'est quelque chose de compliqué ». C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. J'ai juste besoin d'ouvrir mon foyer puis inviter quelqu'un à manger chez moi. Je peux pas, j'ai pas vraiment de place pour... J'ai juste besoin d'appeler quelqu'un puis aller prendre un café. Puis c'est vrai, je t'invite, c'est moi qui paye le lunch, on va aller manger ensemble, on va aller partager un repas ensemble. Parce que c'est l'endroit où on va vivre cette communion-là, cette rencontre-là ensemble. Je crois qu'on a peur d'ouvrir notre foyer parce qu'on a peur de mêler nos vies ensemble. On a des catégories, on l'a dit tantôt, puis il y a des gens qui sont dans certaines catégories que je ne voudrais peut-être pas inviter chez nous parce que ça pourrait vraiment me compliquer la vie. S'il fallait que ces gens-là collent chez nous un peu, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas le goût de me salir avec cette catégorie de gens-là en les invitant dans mon foyer. En les invitant dans ma vie, dans ma maison, à partager un repas ensemble. Je crois qu'on a peur d'ouvrir nos foyers parce qu'on a peur que ça devienne trop lourd à porter aussi. Laissez-moi être super concret dans notre société actuellement. On a décidé qu'on allait accueillir toute une population qui est en difficulté. Puis on se dit, OK, d'un côté, c'est génial. Puis là, d'un autre côté, à un moment donné, tu as comme une deuxième pensée qui vient, puis tu te dis, hey, ça va être toute une charge sociale, cette affaire-là. Ça va être quelque chose, il va falloir porter ça collectivement. Il faut aider ces gens-là à s'établir, à s'installer. Si vous me dites que vous ne pensez jamais à ça, j'ai bien de la misère à vous croire. Mais je crois que c'est la même chose sur le plan individuel, relationnel avec les personnes. Je pense qu'on a peur de devoir se charger de tous les problèmes des gens. Puis on se dit, si j'ouvre mon foyer, il va falloir que je prenne tous les problèmes du monde sur mes épaules. Puis pourquoi est-ce que j'ai pris le temps d'aller là? Parce que ce que je vois avec Jésus, c'est qu'il va juste partager un repas avec les personnes. Je pense vraiment qu'on se complique beaucoup la vie. Jésus a fait plein de rencontres où il partage un repas avec des gens, puis il n'a pas réglé tous les problèmes. Il n'a pas tout réglé les problèmes des gens à ce moment-là. Il a partagé un repas avec eux. Il a fait un bout de chemin avec eux. Et donc, l'accueil, c'est simplement d'ouvrir mon foyer pour inviter quelqu'un à venir partager un moment avec moi. Puis pendant ce moment-là, qui va durer 1 heure, 2 heures, simplement par notre relation, parce qu'on est en train de connecter ensemble. Je viens de donner un endroit où il y a de l'amour, il y a de l'accueil. Puis la personne, même si c'est dans la pire des misères, elle ne sait pas ce qu'elle va manger demain, mais là, elle est en train de manger avec toi. Elle ne sait pas où elle va travailler, elle est en recherche d'emploi, mais là, elle est en train de manger avec toi. Demain, il faut qu'elle aille faire son traitement pour un cancer. Ce n'est pas parce qu'on mange ensemble que tout est réglé. Demain, il faut que, ce soir, il faut qu'elle aille coucher à la maison, puis c'est des tensions à la maison. Mais là, à ce moment-là, j'ai offert ce moment-là très humain où simplement on est en train de communier ensemble. Puis j'ai accueilli cette personne-là. Je crois qu'un des obstacles à l'accueil, c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'on prenne comme toute la vie d'une personne sur nos épaules, puis on se dit, « Ouais, mais Yannick, si tu savais, mon vieux, à quel point ma vie est occupée, je ne peux pas en prendre un de plus sur mes épaules. » Si tu penses que tu peux en prendre un seul sur tes épaules, il y a des choses que tu n'as vraiment pas compris. Tu n'es même pas capable de te porter toi-même, bonhomme. C'est Christ qui te transporte. Tu n'as rien compris. Dieu ne te demande pas de prendre le poids d'accueillir 46 000 personnes cette année, puis « Ah, l'Église, on veut être 500 disciples qui faisons des disciples, il faut que j'en invite à toutes les semaines, puis là, ils vont rentrer dans ma vie, puis là, je ne saurais pas comment les aider, puis ouais, simplifie-toi la vie, partage un repas. » L'accueil là, dans le Nouveau Testament, c'est des moments de partage où on chemine un peu ensemble, puis on s'accompagne. C'est beaucoup ça. Dans le ministère de Jésus, c'est beaucoup ça. Il y a des choses qui se passent dans ce moment-là qui sont uniques et qui sont belles, qui font toute la différence. Demandez aux gens qui sont en train de s'intégrer à l'Église ou les gens qui sont en train d'arriver au pays ici, toute la différence que ça fait simplement d'être invité pour un repas puis d'entrer en relation ensemble. Avec toutes les barrières qu'ils peuvent avoir de langue ou peu importe, ou de culture, mais simplement ce moment-là, ça vient changer complètement, complètement notre expérience. Je vais vous raconter une histoire, je vais essayer de la faire brève, d'accord? Mais simplement pour vous dire à quel point c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a 2 ans de cela, je crois, j'étais à la Bouffe pour tous ici, et puis on était en train de fermer la banque alimentaire le soir, tout ça, puis il y a un monsieur qui s'est présenté là, je vais l'appeler Marcus, OK? C'est pas son vrai nom. Marcus se pointe là, et puis on est en train de fermer. Fait que notre réflexe, c'est de dire, on est désolé, on est déjà comme tout est rangé, puis il y a des choses qui ont été jetées parce qu'elles étaient plus bonnes, puis on ne pourra peut-être pas vous donner un panier ce soir. Et puis il dit, non, pas de problème, je m'en venais juste me renseigner pour une prochaine fois. T'sais. Fait que je dis, je vais quand même aller faire ce que je peux, je vais aller vous faire un panier autant que je peux, puis je vous apporte ça. Puis pendant ce temps-là, Luigi était là, puis il commence à jaser avec tout ça. Fait que finalement, j'arrive avec une espèce de panier de malade qui n'a pas de bon sens, mais il y avait des éléments qui manquaient. Fait que je suis arrivé, puis j'ai dit, écoutez, on vous le donne. D'habitude, les gens doivent payer une petite contribution, tout ça. On vous le donne, on n'avait pas tout pour vous. Puis je vais aller vous reconduire chez vous. Vous ne pouvez pas rentrer à la maison avec ça à pied. C'est comme 2 grosses boîtes comme ça. Là, puis j'exagère pas des gros paniers. Fait qu'on va embarquer ça dans l'auto, tout ça. Puis Luigi me glisse à l'oreille. Il dit, Yannick, ce monsieur-là vient de perdre son fils la semaine dernière. Et puis c'est un réfugié politique au Québec. Puis il ne peut pas aller voir son fils là-bas parce qu'il n'a pas le droit de rentrer au pays. Fait que je vais le reconduire chez lui, puis lorsqu'on arrive, je commence à débarquer les boîtes, puis je rentre dans la maison avec lui, puis je m'en vais déposer ça dans sa cuisine. Puis il est complètement bouleversé de la rencontre qu'on a faite, parce que ça a été, dans le fond, avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humanité. Puis il commence à me montrer des photos, puis il commence à m'expliquer que pendant qu'il était ici pour un voyage d'affaires, alors qu'il avait déjà fait de la politique dans le passé, un autre parti qui est au pouvoir est allé vandaliser sa maison. Sa famille a dû aller se réfugier ailleurs, puis ils ont retiré son passeport. Donc, il ne peut pas retourner chez lui. Il a inscrit sa famille, il a été accepté rapidement comme réfugié politique. Il a une profession, tout ça, il a été accepté comme réfugié. Il a inscrit sa famille pour faire venir sa famille. Mais lorsqu'il est venu cette journée-là à la banque alimentaire, il revenait de l'immigration où est-ce qu'il était allé rayer le nom de son fils qui est décédé. Parce que celui-là n'avait pas besoin d'immigrer. Mais lui n'avait pas pu aller participer au service funéraire parce qu'il est interdit dans son pays. Vous comprenez? Puis il me partage ça, puis il me montre des photos de ses enfants, puis je pense à mon gars qui avait 14 ans à ce moment-là, puis son garçon avait 13 ans. Puis Marcus me dit, Yannick, vous m'avez accueilli d'une manière incroyable. Cette maison ici, c'est ta maison. Tu viens ici quand tu veux. Puis on l'a revu, puis on l'a revu, puis une fois, Julie puis Dominique sont allés le reconduire chez lui, puis ont commencé à jaser avec, puis se sont liés d'amitié, ont partagé des repas ensemble. Une de mes plus grandes joies, c'est lorsque Julie puis Dominique se sont mariés, de voir qu'il était invité au mariage. Il était là au mariage. Ça a commencé avec des restants de bouffe pour tous qu'on a partagés. C'est simple, hein? Pour de vrai, est-ce qu'on a réglé un seul de ces vrais problèmes? Pas du tout. La misère, puis le malheur, puis la souffrance est là entier. Quand je l'ai quitté ce soir-là, j'avais rien réglé. Mais j'avais été là pour pleurer avec lui, puis pour prier avec lui. Puis il avait rencontré des gens qui marchaient avec lui. C'est simple comme ça, accueillir. C'est simplement ouvrir ton foyer, puis inviter quelqu'un pour marcher une heure avec lui, partager un repas. C'est tout. Je termine avec le troisième obstacle. Le troisième obstacle à l'accueil, c'est qu'on oublie l'Évangile. Dieu nous a donné la clé pour qu'on soit l'endroit le plus accueillant dans une communauté, dans une ville, l'Église, parce qu'il nous a donné l'Évangile. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 10, versets 17 à 19, il avait dit au peuple d'Israël, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des grands, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'exception de personne, ça veut dire qu'il ne fait pas d'exception parmi les gens, et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Et dans ça, on a une partie de l'Évangile qui est déjà présent juste là. Paul va dire dans Éphésiens 2, « C'est pourquoi vous, autrefois païens, c'est-à-dire non-juifs, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis les Juifs et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Lorsqu'on a de la difficulté à accueillir, je pense que Paul nous dirait que le plus grand obstacle à l'accueil, c'est qu'on oublie l'Évangile. On oublie que chacun d'entre nous, on a été accueilli par Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Que nous étions étrangers de Dieu par notre nature pécheresse, par nos péchés, par nos fautes, et que nous avons été réunis à Dieu par Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de citer Deutéronome? C'est parce qu'à travers toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un mouvement dans l'Évangile. Il y a un mouvement constant dans l'Évangile. Il n'y a personne qui est ici étranger de Dieu et qui va vers Dieu. L'être humain est incapable de trouver Dieu par lui-même. Alors, à travers toutes les Écritures, que ce soit à partir de la Genèse où Dieu crée l'homme, l'homme et la femme pêchent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient à leur rencontre dans le jardin. Dieu va vers eux et les revêt. Dieu va vers Israël, forme un peuple avec Israël. Jésus-Christ vient vers nous, s'incarne sur la terre, vient pour nous racheter. Il y a un mouvement dans l'Évangile constant où Dieu vient vers celui qui est étranger. Et si nous sommes appelés à grandir dans notre accueil, il faut qu'on emboîte le pas. Il faut, comme Église, que nous faisions ce même mouvement-là. Accueillir quelqu'un, c'est pas accueillir celui qui vient à moi premièrement. C'est aller vers l'autre. C'est ce que Dieu fait avec nous. On aurait été incapable d'aller par nous-mêmes vers Dieu, incapable de s'approcher de Dieu par nous-mêmes. C'est lui qui est venu vers nous. Et pour nous, comme Église, grandir dans notre accueil, c'est décider que je vais aller vers l'étranger. Je vais aller vers l'autre. Je vais mettre de côté mes catégories. Parce que dans le fond, on est tous égaux, on est tous pécheurs. Je vais simplement ouvrir mon foyer et je vais dire, veux-tu venir manger chez nous? Veux-tu qu'on aille prendre un café ensemble? Veux-tu qu'on passe une heure ensemble à jaser? J'ai pas besoin d'avoir toutes les solutions puis régler tous les problèmes de sa vie. J'ai juste besoin de faire ça, d'ouvrir mon foyer. Je termine ce matin avec, ça va faire un peu cartésien mon affaire, mais en même temps, je pense que c'est encourageant. Je termine avec trois acétates qui présentent un petit peu des choses, des résultats du sondage qu'on a fait ensemble. Parce qu'on a fait un sondage il y a un an sur plusieurs questions sur lesquelles on voulait grandir, puis on l'a refait au début de l'année. Puis il y a des choses qui sont vraiment encourageantes dedans, d'accord? L'année dernière, on travaillait sur l'accueil, encore cette année, fait que ça nous permet un peu d'avoir des comparables. Notre Église est accueillante envers les étrangers, les malheureux, les délaissés. On vous a posé la question. Maintenant, on peut se tromper, c'est nous qui nous disons que, mais c'est notre perception quand même. La colonne rouge, c'est l'évaluation de cette année. Pas vraiment, c'est en diminution. Un peu, c'est en diminution. De plus en plus, c'est en augmentation. Absolument aussi. Voyez-vous? Donc, dans notre perception, dans l'écho qu'on se donne à nous-mêmes, c'est qu'on sent qu'on est de plus en plus accueillant pour l'étranger, le malheureux, le délaissé. Le prochain graphique. Bien que je fréquente régulièrement cette assemblée, je me sens seul ou délaissé. Ça, c'est super important. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas entendre leur voix dans l'Église puis qui vivent de la solitude. Alors, qu'est-ce que ces gens-là nous disent cette année? Ceux qui nous disent « Non, je ne me sens pas dans l'Église seul ou délaissé », c'est en croissance, de 69 à 77 %. « Oui, je ne connais presque personne », c'est stable, 11 %. « J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas ou ne m'écoute pas », c'est en diminution. Donc, il y a plus de gens qui se sentent quand même compris ou rejoints dans ce qu'ils vivent difficilement. Et puis, personne ne peut vraiment m'aider, c'est en diminution aussi. C'est vraiment encourageant, d'accord? La dernière. Bien que je fréquente régulièrement cette assemblée, je me sens seul ou délaissé. Je m'excuse juste la troisième, s'il vous plaît. J'aime accueillir des gens par l'un ou l'autre de ses moyens. Alors, est-ce qu'on a à cœur maintenant de passer à l'action, nous, de s'impliquer? Saluer des nouveaux le dimanche matin, inviter des nouveaux, des personnes à venir manger chez moi, inviter des gens nouvelles à se joindre à mon petit groupe, inviter des personnes lors des événements. Pas vraiment, c'est en diminution. Un peu, c'est en diminution. De plus en plus, c'est clairement en croissance. Régulièrement, c'est très clairement en croissance. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous partager ça? C'est parce que des fois, lorsqu'on veut travailler sur les mêmes choses en Église pendant quelques années, vous pouvez avoir le sentiment que les anciens, on est juste comme en train de taper sur la même affaire, comme si on était juste comme têtu puis on ne voulait pas grandir. C'est pas le cas, on est en train de grandir comme assemblée. C'est vraiment encourageant. Puis c'est ça l'écho qu'on reçoit de plus en plus chez les gens qui se joignent, qui viennent en visite. De plus en plus, on a des gens qui nous disent « Aïe, j'ai vraiment été accueilli, c'est génial, puis tranquillement, je trouve une famille ici dans l'Église. » Alors, on est en train de grandir là-dedans. Mais c'est vraiment un parfum de Christ, cette qualité-là d'être capable de ne pas catégoriser les gens, mais simplement avoir le même regard de compassion sur chacun, ouvrir son foyer avec simplicité, se rappeler qu'on a été accueilli en Jésus-Christ. Il y a vraiment là un parfum de l'Évangile, il y a vraiment là une saveur de l'Évangile, et donc on veut grandir encore là-dedans. On est en train de le faire. Alors, je vous encourage. Cette année, vous allez avoir des opportunités de grandir. Vous pouvez le faire super simplement en invitant quelqu'un ce midi à dîner, en invitant des gens à chaque semaine, en donnant un coup de fil à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un bout de temps, en vous asseyant vraiment avec quelqu'un pour dire est-ce que tu sens que tu es en train de t'intégrer? Est-ce que ça va? As-tu des amis? Veux-tu qu'on aille prendre un café? En voyant des gens, des fois, qui s'isolent un peu, en les présentant à d'autres amis dans l'Église, en les invitant dans votre petit groupe sans demander au groupe « Hey, ça vous dérange-tu que je t'invite quelqu'un? » Si ça leur dérange, vous me les enverrez. Ça va? Vous invitez, ça finit là. Invitez du monde. Les gens ont besoin de ça. Dans notre société, c'est un besoin encore plus criant. Mais c'est pas juste ça. C'est parce que c'est ça que l'Évangile fait. L'Évangile, c'est un message de l'accueil de la part de Dieu dans lequel Dieu a pris l'initiative pour nous accueillir. C'est ça qu'on veut être comme Église. On prie ensemble. Père éternel, on vient pour t'adorer ce matin, Seigneur. On va chanter des chants qui parlent du fait que toi, tu nous as accueillis en Jésus-Christ. On va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure, puis ça parle encore de ton accueil pour nous, Seigneur. On veut t'adorer parce que tu es celui qui accueille. Tu es celui qui prend soin. Tu es celui qui prend l'initiative de venir vers nous, Seigneur. Et tu l'as manifesté à la croix. Viens nous transformer profondément. Qu'en étant éclairés par la vérité de ta parole, nous voyons chacun comme des gens qui ont besoin de ton amour et besoin d'entendre l'Évangile, Seigneur. Et qu'avec beaucoup de simplicité, nous soyons à contre-courant d'une culture individualiste, Seigneur, et qu'on ouvre notre maison tout simplement pour accueillir. À cause de l'Évangile. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen.